Merci. Pour comprendre la mémoire, il faut s'intéresser à la fois aux performances des personnes en bonne santé, mais également aux patients atteints de dysfonctionnement. La mémoire, c'est une réalité biologique et anatomique qui nous permet d'apprendre en permanence de nouvelles informations, de les conserver le plus longtemps possible et de les retrouver au moment voulu. Et nous possédons, nous allons le voir, plusieurs sortes de mémoire. C'est pour en parler que je reçois dans un instant le neurologue Bernard Croisil. Avec lui, nous allons explorer les différentes saisons de la mémoire, celles qui nous accompagnent tout au long de notre vie et dans différentes situations. C'est le dossier de la tête au carré en ce début de semaine avec toutes vos questions en direct sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et de retour à la une de la science aujourd'hui, Axel, le cas d'école scientifique de la couche d'ozone qui se résorbe.
Oui, puisque 30 ans après la signature du protocole de Montréal, la première preuve directe que le trou se résorbe vient d'être publiée. On en discute avec la spécialiste Sophie Godin-Beckmann.
Et c'est Fanny Boyon qui est de retour également et qui réalise l'émission aujourd'hui préparée par Thomas Lemété.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voilà, tout sur la mémoire. Ce sera le dossier de l'émission dans un instant avec Bernard Croisil qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
Vous êtes avec nous en duplex des bureaux de Radio France à Lyon et Bernard Croisil, dans le livre que vous avez publié chez Odile Jacob, tout sur la mémoire, vous racontez que déjà, in utero, le fœtus a de la mémoire. Comment est-ce que d'abord on peut le savoir ?
C'est difficile en effet, mais assez simple. Quand la future mère écoute par exemple un air de musique lors des dernières semaines de grossesse, dans les heures qui suivent la naissance, si au nourrisson on lui fait entendre trois airs de musique, dont celui que sa mère a entendu, eh bien il va réagir par une succion par exemple, ou en orientant son regard, il va réagir à l'air de musique que sa mère a écouté en fin de grossesse.
Voilà, donc la mémoire, on le verra avec vous, ça commence très très tôt dans la vie. On va découvrir justement plusieurs aspects de la mémoire, avec des cas étonnants de personnes qui par exemple n'oublient rien, on en parlait, et puis on abordera les clés pour avoir une bonne mémoire et les cas où celle-ci défaille. Bernard Croisil, à tout de suite. Vous répondrez aux messages des auditeurs qui nous rejoignent. Les mesures prises il y a 30 ans pour protéger la couche d'ozone sont un succès et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Un accord historique vient d'être conclu à Montréal par les représentants de 46 pays industrialisés. Ils ont décidé de stabiliser d'abord, puis de réduire progressivement l'utilisation des aérosols contenant des composés de fluor et de chlore. L'accord de Montréal, qui doit maintenant être ratifié par les 46 gouvernements, est donc un accord fondamental pour tout l'avenir de la vie sur la Terre.
Voilà, c'était dans le journal de 20h d'Antenne 2, donc à l'époque, en 1987. Le protocole de Montréal, premier protocole environnemental à atteindre la ratification universelle, définissait donc une feuille de route précise pour stopper les émissions de composés appauvrissant la couche d'ozone. Et 30 ans après, les analyses démontrent son efficacité et le trou commence à se résorber. Et c'est une bonne nouvelle, on ne va pas s'en priver, on en parle aujourd'hui à la une de la science, Axel.
Oui Mathieu, nous sommes avec Sophie Godin-Beckmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de la Commission internationale sur l'ozone et directrice de recherche au LATMOS. On est également avec Hervé Kempf, notre partenaire pour le magazine Reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Axel.
Alors Sophie Godin-Beckmann, 30 ans pour voir la première preuve d'une résorption, c'est ce qu'on prévoyait en 87 au moment de la signature ?
Oui, en fait, c'est pas tout à fait 30 ans parce qu'on a déjà vu une première étape de l'efficacité du protocole de Montréal à la fin des années 90, début des années 2000, lorsqu'on a vu que la baisse de l'ozone était arrêtée et que finalement la couche d'ozone était stabilisée à des niveaux inférieurs, certes, à ceux qui prévalaient avant les années 80, mais quand même la destruction d'ozone s'était stabilisée.
Alors qu'est-ce qu'on voit réellement aujourd'hui de nouveau ? C'est le retour de l'ozone dans ce trou, s'il faut le dire comme ça ?
Oui, c'est-à-dire que ce qu'on voit là, c'est les premiers signes d'augmentation de l'ozone et la publication que vous avez mentionnée permet d'attribuer ce début d'augmentation de l'ozone qui est très faible encore à la baisse des composés chlorés à l'intérieur du vortex polaire antarctique.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu, pour rafraîchir la mémoire, ce qui s'est passé dans les années 70-80 et qui a causé le problème ?
En fait, on s'est rendu compte, dans les années 70, il y a eu une première alerte où on s'est rendu compte que ces produits chlorés, les CFC produits par l'industrie chimique, pouvaient porter atteinte à la couche d'ozone. Ensuite, donc à la fin des années 70, il y a eu une un premier ban des sprays aérosols. Ensuite, il y a eu la signature de la Convention de Vienne en 1985 et la même année, l'apparition d'un article montrant une diminution de l'ozone au-dessus du printemps polaire en Antarctique qui était inexpliquée.
Hervé Kempf avait une question à vous poser.
En fait, je me demandais pourquoi c'est difficile de observer la reconstitution. Quelle est un peu la procédure expérimentale qui vous a permis d'arriver à cette conclusion?
En fait, c'est des signaux très très faibles qu'on doit distinguer dans la variabilité atmosphérique qui prévaut même dans la stratosphère, même si c'est une région qui est moins variable que la troposphère. Et donc, on est obligé de mettre ensemble à la fois des mesures satellites, des mesures sol qui calibrent les mesures satellites, et donc de faire des analyses statistiques qui permettent finalement de soustraire cette variabilité atmosphérique pour ensuite distinguer le signal très faible de reconstitution de la couche d'ozone.
Ces mesures prises en 10 ans et leur application en 30 ans, c'est un véritable succès. Pourquoi on n'arrive pas à faire la même chose pour le climat ?
Pour le climat, c'est beaucoup plus compliqué parce que le problème du climat, ça touche tous les secteurs économiques de la société, alors que là, il s'agit essentiellement de l'industrie chimique. En plus, l'industrie chimique, finalement, avait déjà eu une première alerte dans les années 70, donc ils avaient commencé à préparer des substituts. Ça concernait un petit nombre d'acteurs, en plus, à l'époque, principalement dominés par Dupont de Nemours. Donc, ils avaient déjà commencé à accompagner la recherche aussi. Il y avait le modèle chimique de Dupont de Nemours. Et donc, La problématique était plus simple que pour le changement climatique.
Sophie Gonnam-Eckmann, je rappelle donc que vous êtes la présidente de la Commission internationale sur l'ozone. Est-ce que les scientifiques ont été surpris eux-mêmes de voir la rapidité, au fond quand même, du processus entre le protocole en 87 et les premiers résultats aujourd'hui ?
En fait, ce qui est assez remarquable, c'est plus le fait qu'on ait réussi à comprendre le processus de destruction de l'ozone en Antarctique 2 ans après l'article qui le signalait. Donc ça a été très rapide. Et au même moment, pratiquement le même mois où ces mesures ont été faites, le protocole de Montréal était signé. Ça veut dire qu'à l'époque, il y avait quand même une certaine efficacité dans la façon de pouvoir signer des protocoles internationaux environnementaux.
On en est où aujourd'hui de l'application de ce protocole ? Est-ce qu'on continue d'émettre des polluants pour l'ozone ?
L'avantage du protocole de Montréal, c'est qu'il établit des feuilles de route précises. Donc ça permet en fait à l'industrie de s'orienter dans le futur, d'avoir des objectifs précis. Donc on a suivi en fait la feuille de route du protocole, c'est-à-dire que les pays en voie de développement et les pays développés avaient une feuille de route différente, avec un effort plus important pour les pays développés. Les CFC, les plus importants contributeurs de la destruction de l'ozone, ont arrêté d'être produits en 96 dans les pays développés et en 2010 dans les pays en voie de développement. Ensuite, on avait prévu plusieurs gammes de substituts pour pouvoir ensuite continuer quand même les applications économiques relatives aux CFC qui avaient été interdits.
Et justement, en octobre 2016, à Kigali, il y a eu un accord international pour bannir progressivement les hydrofluorocarbures. Ce sont donc les substituts aux CFC ou HFC que vous venez de nous expliquer. Alors ça, c'est une nouvelle très importante, mais ça suppose aussi qu'il y ait une pleine coopération des pays développés, et notamment des États-Unis. Est-ce que le nouveau gouvernement de M. Trump ne risque pas d'affaiblir cet accord et donc de retarder la reconstitution de la couche d'ozone ?
Oui, alors là, c'est toute la question. Effectivement, il se trouve, le protocole de l'amendement de Kigali était extrêmement important parce que il se trouve que les HFC, c'est la deuxième gamme de substituts qui ne portent pas atteinte à la couche d'ozone. Donc, le succès diplomatique à l'époque, c'est d'avoir réussi à introduire des gaz qui sont des gaz à effet de serre qui ne portent pas atteinte à la couche d'ozone dans le protocole de Montréal parce qu'on savait qu'il était efficace. Et aussi, un des succès du protocole de Montréal, c'est d'avoir introduit un fonds multilatéral d'aide, de solidarité entre les pays développés et les pays en voie de développement. Fonds multilatéral qui était majoritairement abondé par les États-Unis. Et donc, effectivement, il y a une incertitude actuellement. Bon, il se trouve que là, en 2017, pour les 30 ans du protocole de Montréal, à Montréal, justement, à la COP, il y a eu un accord pour abonder ce fonds. Donc, pour l'instant, pour un an, on est tranquille. Après, seul l'avenir nous dira ce que fera l'administration Trump à ce sujet.
Ce trou de la couche d'ozone, il se trouve où sur notre planète et est-ce qu'il évolue au fil de l'année ?
Alors, il se trouve au-dessus de l'Antarctique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un trou qui se forme en fin d'hiver et qui se creuse tout au long du mois de septembre, au printemps austral, et qui perdure courant octobre et ensuite qui se disloque du fait des conditions météorologiques et dynamiques particulières de la stratosphère en hiver dans cette région.
Combien de temps avant qu'il se résorbe si on suit le même rythme et qu'on réussit à suivre le protocole ?
Les modèles prédisent une résorption complète du trou d'ozone à partir des années 2060-2070 à peu près.
Merci beaucoup Sophie Godin-Beckmann. Donc les nouvelles sont plutôt bonnes suite à cette
Tout
publication
à
et ça fait du bien de le dire enfin aujourd'hui à la Une de la Science. Merci beaucoup de vous être déplacé aujourd'hui. Hervé Kempf, un coup d'œil sur le sommaire de reporter.net.
Eh bien aujourd'hui une nouvelle moins enthousiasmante à la Une puisque nous nous interrogeons et beaucoup de scientifiques le font sur les robots tueurs avec le croisement des drones et de l'intelligence artificielle, eh bien de plus en plus on voit apparaître des possibilités de robots autonomes qui seraient capables de tuer eh bien des gens pendant la guerre. C'est un vrai sujet. Et puis heureusement, plus rafraîchissant et plus optimiste, en 5 jours j'ai réduit mon empreinte écologique.
Ah oui.
Et la journaliste Juliette Duclos a réussi de diminuer d'une à deux tonnes ses émissions de CO2.
Eh bien on va essayer de faire comme elle.
Et en suivant tous les conseils qu'elle donne, c'est excellent.
Eh bien on va les lire sur reporter.net. Merci beaucoup Hervé et Axel. À demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, de plus en plus chaud pour les coraux. Une étude parue dans Science met en avant l'alarmante augmentation du blanchissement du corail provoqué par la hausse de température dans les océans. Le phénomène entraîne la mort de ces animaux qui abritent quand même 30% de la biodiversité marine. Ces épisodes de blanchissement, autrefois très localisés, se produisent aujourd'hui à des échelles régionales. Les spécialistes en dénombrent aujourd'hui 1 à tous les 3 ans contre 1 à tous les 25 ans auparavant. À ce rythme, les coraux n'ont plus le temps de se régénérer naturellement et meurent. Les auteurs de l'étude se veulent pourtant optimiste et indique qu'une baisse importante des émissions de dioxyde de carbone diminuerait la fréquence du phénomène. D'autres spécialistes tentent de comprendre pourquoi certaines espèces de coraux résistent mieux que d'autres. L'étonnant régime alimentaire du requin marteau tibouro, habitué aux eaux peu profondes, ce carnivore se nourrit naturellement de petits crustacés. Pourtant, il lui arrive de s'attaquer également aux plantes marines. Une équipe californienne a étudié la manière dont ce carnivore pouvait digérer ses plantes en le nourrissant à 90% avec pendant 3 semaines, alors que l'espèce possède un système digestif adapté à un régime riche en protéines. Les chercheurs se sont aperçus qu'il gérait près de 50% des plantes avalées. Ils suspectent que le processus se fasse grâce à des microbes présents dans l'intestin du requin. Et puis pour terminer, le décès de l'astronaute John Young, âgé de 87 ans, ce pionnier du programme spatial américain, s'est éteint vendredi soir au Texas, des complications d'une pneumonie. D'abord pilote dans la Navy, il avait rejoint la NASA et participé au programme Gemini avant de voler autour de la Lune avec Apollo 10 en 1969. Il s'y était posé également sur la Lune 3 ans plus tard en commandant Apollo 16 et faisait ainsi partie des 12 hommes ayant foulé le sol lunaire à ce jour. Premier homme à effectuer 6 sorties dans l'espace, il avait pris sa retraite en 2004. Et c'est un dossier sur la mémoire dans un instant. Après avoir rendu hommage bien sûr à France Gall aujourd'hui comme toute la journée sur France Inter, 1978, vous avez reconnu ces « Viens, je t'emmène ».
Toi qui as posé les yeux sur moi, toi qui me parles pour que j'aie moins froid, je te donne tout ce que j'ai.
France Gall sur France Inter avec ce titre de 1978, Viens, je t'emmène.
La tête au carré sur France Inter.
Bernard Croisil, vous êtes neurologue et vous êtes avec nous en duplex des bureaux de Radio France à Lyon. Vous avez publié maintenant, il y a plusieurs années, Tous sur la mémoire chez Odile Jacob. Mais ce livre fait toujours référence aujourd'hui. Et on explore avec vous donc toutes les facettes de la mémoire avec les messages, les questions des auditeurs qui arrivent sur le site de l'émission et puis également sur les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Bernard Croisil, vous racontez en ouverture de votre livre vos souvenirs liés à une rencontre avec votre première personne amnésique, un monsieur qui était atteint d'amnésie du présent. Pourquoi est-ce que cette rencontre a été importante dans votre parcours ?
Je ne sais pas, mais c'est vrai que quand vous êtes un étudiant en médecine en tout début d'année, et que vous découvrez dans un lit d'hôpital un monsieur qui oublie tout ce qu'on lui dit, alors que vous, en tant qu'étudiant, vous essayez d'apprendre tous les cours de médecine, c'est quand même très impressionnant. Et effectivement, cette amnésie importante de quelqu'un qui était alcoolique, ce qu'on appelle le syndrome de Korsakoff, a peut-être déterminé ma carrière par cette horreur que l'on découvre, toutes oubliées.
Ouais. Est-ce qu'on connaît bien les mécanismes de la mémoire aujourd'hui, Bernard Croisil, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses et de questions en suspens, beaucoup de choses à découvrir ?
Forcément, tout ce qui concerne le cerveau laisse encore beaucoup de mystères. En fait, on comprend bien le fonctionnement neuronal biologique. On sait ce qui se passe au niveau de certains neurones, on comprend au niveau cérébral quelles sont les régions qui sont interconnectées entre elles et qui permettent les processus d'apprendre, de garder et de retrouver. Et puis on comprend aussi l'organisation cognitive, ces différents mécanismes qui s'enchaînent. Après, il restera toujours un mystère individuel et à l'échelle de l'interaction de ces trois étapes, de ces trois modes que je viens de citer.
Donc ça, ce sont les grandes questions en suspens encore dans ce domaine ?
Oui, la grande question serait sans doute pourquoi moi aujourd'hui je vis telle expérience et pourquoi est-ce que je vais peut-être me rappeler que très peu de choses ou au contraire beaucoup de choses. C'est ça, à l'échelle individuelle, c'est ce qu'on aimerait comprendre. Pourquoi est-ce que je retiens, pourquoi est-ce que j'oublie ? On le comprend de manière globale, mais individuellement, ça reste quand même encore un peu mystérieux.
Alors il y a plein de questions alors qui vont dans tous les domaines parce que c'est un vaste domaine. D'ailleurs, il faut quoi ? Il faut parler des mémoires, Bernard Croisil, au fond, non ?
Oui, la mémoire, c'est un titre commode, c'est un titre de chapitre ou un titre de livre. Oui. Mais en fait, il y a plusieurs formes de mémoire parce qu'il y a plusieurs processus. Comme vous le disiez tout à l'heure, j'apprends, je garde, je retrouve. Et puis, vous avez des mémoires, différents stocks, la mémoire des gestes, la mémoire des souvenirs personnels, la mémoire des informations culturelles. Ce qui fait qu'au total, vous avez effectivement différentes façons d'aborder la mémoire.
Alors voici par exemple une question qui arrive de Marjorie. Elle nous dit « J'ai pas une mémoire exceptionnelle, mais je me souviens de tous les vieux génériques de séries de mon enfance oubliées de tous. J'ai aussi entendu dire que les personnes atteintes d'Alzheimer peuvent, malgré la maladie, encore apprendre des chansons. Est-ce que justement les chansons, les mélodies sont mémorisées d'une façon particulière qui pourrait expliquer cette mémoire, Bernard Croisil?
Alors d'abord, dans le cas de Marjorie, le point important, c'est surtout que c'est l'émotion de son enfance. Elle a écouté des séries, il y avait un élément musical. On sait que les enfants sont sensibles à la musique, puisqu'à l'école, on leur fait apprendre des comptines. Il y a donc un élément émotionnel très, très important. Ensuite, on sait que quand vous apprenez une mélodie, enfin un air de musique, vous apprenez à la fois les paroles et la mélodie, la musique, et que ce sont des processus qui sont bien individualisés au niveau du cerveau, et que l'élément mélodique, ce sera plutôt le cerveau droit. L'élément de parole, ce seront plutôt les régions du cerveau gauche. Après, pour répondre à la partie maladie d'Alzheimer, il est vrai que quand on dit qu'un patient qui a une maladie d'Alzheimer a une amnésie, a des troubles de mémoire, sa mémoire n'a pas totalement disparu. Il existe des capacités préservées. Et comme c'est une maladie où les patients vont surtout perdre le sens des choses, la mélodie sera effectivement plus facile à apprendre. Et on rentre dans le cadre de ce qu'on appelle l'art-thérapie, et en particulier de la musicothérapie, qui est utilisée pour apaiser des patients. Et on sait que par les techniques de musicothérapie, on va réduire l'anxiété, le stress, l'agressivité ou la déambulation de ces patients.
Est-ce que c'est une technique qui permettrait de consolider aussi la mémoire chez les personnes atteintes d'Alzheimer, ou pas faire justement appel aux chansons ou à la musique?
Alors, ce qui a été fait, c'est une gériatre de Caen qui avait fait apprendre à des patients ayant une maladie d'Alzheimer une chanson. On savait que c'était la première fois qu'elles entendaient cette chanson. Et la semaine suivante, elle leur demande de chanter cette chanson. Les patients n'y arrivent pas tellement. Elle leur donne un indice et les patients retrouvent l'air et les paroles. Et tout en étant persuadées que c'était un air qu'elles avaient appris il y a 30 ou 50 ans. Donc, vous voyez, c'est ça le côté. Elles ont pu apprendre, mais en étant persuadées que c'était une chanson qu'elles avaient apprise autrefois. Alors, ça va pas leur permettre forcément de retrouver leur chemin dans la résidence, mais ça démontre bien cette capacité de mémoire préservée que l'on a chez certains amnésiques, même les patients qui ont un certain nombre de Korsakoff, là, ces grandes amnésies alcooliques, qui peuvent se rappeler certaines choses.
Et c'est ce que vous expliquez aussi.
Pas forcément la bonne chose.
Ouais. Oui, c'est ça. Et alors, ce que vous expliquez aussi, c'est qu'on apprend beaucoup des dysfonctionnements. Justement, ces pathologies permettent de mieux comprendre les mécanismes de la mémoire.
Ça, c'est le cœur de la neurologie. La neurologie, donc la discipline qui est celle des maladies du cerveau, a regardé des personnes qui avaient perdu une fonction, donc à présent donc la mémoire, et a regardé au niveau de leur cerveau quelles étaient les régions qui étaient touchées. Donc c'est comme ça qu'on a ce qu'on appelle la méthode anatomoclinique. Je regarde un trouble et je regarde dans le cerveau où ça se passe. Donc on a construit notre compréhension des mécanismes de mémoire par l'étude des amnésiques. Mais maintenant, ce qu'on voudrait comprendre, c'est ce qu'il se passe de manière normale chez un individu normal. Et c'est là où c'est plus compliqué, parce qu'on est vraiment à l'échelle de l'individu et de toute sa dynamique émotionnelle, psychologique, et culturelle et cognitive de création du phénomène mémoire.
Bernard Croisil, on va partir ensemble à la racine de la mémoire chez les plus jeunes en particulier, avec un extrait du film Vice Versa des studios Disney.
On oublie.
Les hommes de mémoire.
Numéro de téléphone, ça sert à rien, ils sont tous dans son portable.
Ouais, excusez-moi, débarrasser
de tout ça. On oublie.
Nous cherchons l'île de l'amitié.
Ça 4 ans de leçon de piano.
Ouais, c'est déjà presque effacé.
On garde la lettre à Élise et au clair de la lune et vire le reste.
Oh, mais pas faire ça. Ces souvenirs sont en parfait état.
Ah ouais, les prénoms de toutes les poupées princesse poney.
Oui, ce sont des informations essentielles. Poney guimauve, poney sucre d'orge.
On oublie.
Hé, hey, remettez-les en place.
Trop tard, on peut pas récupérer ce qui est passé aux oubliettes.
Écoute, petit, on connaît notre boulot.
Quand Riley néglige un souvenir, il s'efface.
Il s'efface?
Ça arrive même au meilleur.
Oui, sauf celui-là, il risque pas de s'effacer.
La chanson de cette pub de chewing-gum.
Ça nous arrive de l'envoyer dans les tuyaux sans raison.
C'est comme une petite rengaine qui tourne et retourne dans sa tête des millions de fois.
Qu'est-ce que t'en dis? On le renvoie?
Ouais.
Allez, c'est parti.
Voilà, Vice-Versa dans La Tête au Carré pour parler de la mémoire. Bernard Croisil, alors c'est une illustration évidemment, là pour parler en particulier justement du tri des souvenirs. Comment est-ce que notre mémoire ou notre cerveau procède justement pour garder ou jeter toutes ces informations dont il possède?
Il est possible qu'il conserve tout, mais ils ne retrouvent pas forcément tout, mmh. puisqu'il y a quelques grandes lois qui sont presque des lois mathématiques. Ce qui est ancien est plus difficile à retrouver, ce qui est peu utilisé est plus difficile à retrouver. Mais en sachant qu'il y a des modulations à dire à ceci, c'est que ce qui est ancien mais qui a été fortement émotionnel sera mieux retrouvé que ce qui est récent et qui est moins émotionnel. C'est-à-dire que le jour où vous avez appris que vous avez réussi un examen ou le jour de votre mariage, c'est peut-être il y a 30 ans, mais il y a une telle émotion que forcément ce souvenir est très ancré par rapport à ce que vous avez fait il y a 3 jours. Et je vois beaucoup de personnes qui me disent « oui, je ne me rappelle pas ce que j'ai mangé hier », mais quel intérêt ? Et c'est là où on voit que l'intérêt, la motivation vont jouer un rôle important également dans l'ancrage du souvenir.
On peut parler de la mémoire collective aussi, hein, parce qu'effectivement, il y a des événements majeurs qui restent gravés dans la mémoire de tout le monde.
Exactement. L'histoire des peuples montre que chaque peuple va ancrer des souvenirs qui construisent non pas l'identité individuelle, mais l'identité collective. Et certaines dates historiques seront très importantes pour un peuple et beaucoup moins pour l'autre ou dans l'autre sens. Le 18 juin 1815, c'est très important pour la France et l'Angleterre, puisque c'est la défaite de Napoléon-Waterloo, mais c'est la victoire de Wellington. Donc vous voyez, c'est important pour tout le monde, mais avec un contexte émotionnel différent.
Patrice demande, le manque de sommeil, est-ce que ça joue réellement sur la perte de mémoire? Et si c'est le cas, est-ce que la mémoire perdue l'est définitivement?
Ouh là là. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que le processus de consolidation, c'est-à-dire quand j'apprends quelque chose, comment votre cerveau va faire, comment mon cerveau va faire pour le retenir le plus longtemps possible. D'abord, il y a un premier élément important, c'est que si je l'apprends plusieurs fois, forcément, je vais mieux le retenir. Mais un autre élément très important, c'est le sommeil. C'est la nuit qui suit le moment où vous vivez un épisode ou le moment où vous apprenez quelque chose. Quand vous vivez quelque chose, là, à l'instant présent, donc cette émission, mon cerveau s'active. Il y a des réseaux neuronaux qui sont en train de s'activer pour retenir ce que nous sommes en train de dire. Que tout à l'heure, là, j'ai entendu que le trou de la couche d'ozone disparaîtra en 2060. Mais donc ça va activer des régions dans mon cerveau. Mais cette nuit, ces mêmes régions, alors que je dors, lors de certaines phases de mon sommeil, ces régions vont se réactiver, donc les réseaux neuronaux vont se réactiver, et cette réactivation lors de mon sommeil va participer à l'ancrage de cette information que j'ai apprise ou de cet épisode de vie que j'ai vécu. Ce qui veut dire qu'avec un sommeil perturbé ou un sommeil artificiel, si on sait que certains somnifères vont déstructurer le sommeil, il est tout à fait possible que l'on ait une mauvaise fixation des souvenirs ou des informations apprises.
Ce que vous appelez la fixation ou l'ancrage, c'est la consolidation, c'est ça, d'une information ou d'un souvenir?
Oui, c'est le fait que vous entendez une information, mais cette information, elle peut être volatile. C'est-à-dire que là, vous voyez, 2060, disparition du trou de la couche d'ozone, je m'en souviens maintenant, mais peut-être que dans 6 mois, j'aurais totalement oublié. Mais peut-être que le processus de consolidation et l'intérêt que je manifeste pour cette information qui, au plan écologique, au plan de la planète, est important, que mon sommeil va mieux conserver cette information, parce qu'en plus, j'ai rajouté un élément d'intérêt, un élément d'émotion. Et c'est vraiment le point important. Il faut que je consolide les informations. Ce n'est pas parce que je les vis qu'elles sont automatiquement ancrées définitivement dans mon cerveau. Mon cerveau va essayer de consolider au maximum cette information pour que dans 30 ans, je m'en souvienne.
D'où l'importance de bien dormir pour les étudiants, par exemple, qui préparent un examen et qui ont emmagasiné beaucoup d'informations.
Oui, le bachotage est une catastrophe, parce qu'au cours du bachotage, bien sûr, les étudiants dorment peu. Alors, ce qu'ils vont vous dire souvent, c'est « oui, j'ai bachoté, mais j'ai quand même réussi mon examen ». Et c'est vrai. Seulement, ce que l'on sait, c'est que 3 mois après, tout ce qu'ils auront appris dans ces conditions un peu extrêmes, de café, de nicotine, de sommeil court, sera en fait beaucoup moins bien retenu, voire aura disparu. C'est-à-dire que sur l'instant, ils réussissent l'examen, mais 3 mois après, ils auront perdu une grande partie de ce qu'ils auront appris lors du bachotage. Parce que ce n'est pas une ambiance naturelle de mémorisation, finalement.
Bernard Croisil, vous êtes l'invité de La Tête au Carré pour parler donc des mécanismes de la mémoire. Vous répondez à toutes les questions, elles sont nombreuses, sur franceinter.fr. Je vous les transmets dans un instant, juste après ce titre de Raphaël, et c'est Retourner à la mer. Bon après-midi avec La Tête au Carré.
Je voudrais retourner à la mer, les vagues où naissent les rochers, la terre sur laquelle tu marchais. Je voudrais retourner à la mer. La villa doit être occupée, j'entends résonner d'autres vies, des amoureux déshabillés pour un dernier bain de minuit. Le jour se lève entre les cieux. Sur les falaises immobiles, observe de loin l'Afrique. Je voudrais retourner à la mer. L'amour à peine l'a-t-on connu, qu'il faut s'en aller vaincu sans rien comprendre à son mystère. Je voudrais retourner à la mer. Les oiseaux qui tournent dans le vent sans effort, sans mouvement, sur la courbure de la terre. Le jour se lève entre les îles et les milliards d'insectes antiques sur les falaises immobiles observent de loin l'Afrique.
Extrait de son album Anticyclone, retourné à la mer, Raphaël.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Tout sur la mémoire, Bernard Croisil, vous avez écrit cet ouvrage aux éditions Odile Jacob, il est toujours disponible en librairie. Comment on s'y prend d'ailleurs pour essayer d'écrire sur un sujet aussi protéiforme ?
Oh là là, c'est du travail, c'est 7 ans de travail, c'est beaucoup d'années de réflexion. C'est pas un livre que vous écrivez quand vous avez 30 ans. Mmh. Vous l'écrivez quand vous avez vu beaucoup de patients, que vous avez lu beaucoup, que vous arrivez à comprendre, que vous discutez avec vos maîtres, avec d'autres personnes, vos collègues. Et puis ensuite, vous prenez les processus les uns après les autres. Vous lisez des articles scientifiques, vous lisez des livres. Et puis c'est un processus de création, de créativité, comme tout travail d'écriture. Après, vous avez des idées qui surgissent et vous prenez des notes et puis vous formalisez votre pensée, vous enlevez, vous simplifiez. Voilà. C'est assez génial.
Ouais, est-ce que le spécialiste de la mémoire que vous êtes a une bonne mémoire lui-même ou pas ?
J'ai une bonne mémoire des dates, par exemple. Mmh. Par exemple, je peux vous dire que le 21 décembre 1977, c'est la date de naissance du président de la République. Je peux vous dire que le 8 janvier, je crois que nous sommes l'anniversaire de la disparition du président Mitterrand. Il me semble que c'était le 8 janvier. Oui, oui. Donc, vous voyez, j'ai une bonne mémoire des notes. À côté de ça, j'ai des problèmes pour les reconnaître les visages. Et, et j'ai du mal à apprendre par cœur. Vous voyez, quand il faut que j'apprenne un petit texte de 5-6 lignes par cœur, c'est vraiment difficile.
Ouais. Alors, Arnaud nous dit sur franceinter.fr, je souffre parfois d'une sorte de mémoire excessive, comme une sorte de mémorisation de choses sans importance, mais qui pollue parfois toutes mes journées. Ça peut durer un jour, deux, voire plus. Une sorte de mémoire obsessionnelle très handicapante. Je peux retenir des phrases entendues et les répéter dans ma tête sans que ça ait vraiment de sens ni d'objectif. Est-ce pathologique, s'inquiète Arnaud, Bernard Croisil ?
C'est pas pathologique au sens, à mon sens, d'une maladie de mémoire. Comme tout phénomène biologique, il y a une inégalité. Pour la course à pied, vous avez des gens qui sont lents et des gens qui sont très rapides, et puis vous avez la moyenne. Pour la mémoire, c'est la même chose. Vous avez des personnes qui n'ont pas une très bonne mémoire, et puis des personnes qui ont une excellente mémoire, voire un peu de plus, et puis des personnes qui sont moyennes. Alors, dans le cas présent, je pense que votre auditeur ferait des jaloux, parce que beaucoup de personnes aimeraient peut-être se rappeler toutes les phrases d'un cours qu'elles doivent mémoriser. Là, pourquoi est-ce qu'il y a cette mémoire qu'il qualifie d'excessive, d'obsessionnelle, et qui en tout cas le pollue, et je pense que c'est le bon terme, effectivement ça devient envahissant. Pourquoi est-ce que lui, il a ce mécanisme? Jamais un médecin ne vous donnera une explication, pour peu que cette personne n'ait aucun antécédent particulier. Mais il y a une inégalité. Vous avez des personnes qui, vous l'avez sûrement entendu, ces personnes qui disent « je lis un cours une fois, je ferme le livre et je m'en souviens ».
Quelle chance! Alors justement, c'est le cas des hypermnésiques, un cas tout à fait particulier que vous décrivez au rayon des curiosités autour de la mémoire. On va écouter d'abord un reportage du journal de France 2. C'était en novembre 2014.
Nous sommes sur la scène d'un théâtre parisien.
Je vais vous révéler mon petit exercice pour avoir une meilleure mémoire.
Fabien Olicard demande au public de choisir un numéro de page et lui va se rappeler ce qu'il y a dedans.
135 avenue d'Enfer Rochereau, c'est ça ?
Correct.
Pour ce numéro, Fabien Olicard a mémorisé tout l'annuaire 2011 de la Charente-Maritime. Il n'est ni magicien, ni illusionniste, juste hypermnésique, doué d'une mémoire hors du commun. Aujourd'hui, avec l'avancée des recherches sur le cerveau, on explique mieux ces cas exceptionnels.
Les personnes ont en général des réseaux de neurones très bien rodés. Il y a également une production de nouveaux neurones tout au long de la vie qui se fait de façon plus importante chez les personnes qui ont une excellente mémoire, et des connexions entre ces neurones qui sont de très bonne qualité.
Une mémoire exceptionnelle qui peut parfois aussi virer au cauchemar. C'est le cas de Anne, hypermnésique depuis l'enfance. Elle se souvient de tout, tout le temps, mais c'est presque insupportable.
Je me disais, mais je peux pas mettre tout. Au bout d'un moment, je me retrouve en surcharge. Le fichier, il explose. Hein ? C'est pas une mémoire qui est intéressante. Parce qu'elle sert à rien. Elle ne m'a jamais servi à rien.
Voilà les personnes hypermnésiques. Alors Bernard Croisy, d'abord, c'est surprenant parce que il semblerait en tout cas que ces cas soient très rares dans la littérature scientifique. Là, on en a deux extraits de cette archive du journal de France 2. Est-ce que il y a un pourcentage de personnes qui sont dans ces cas-là avec des hypermémoires ?
Je crois que ça n'a jamais été mesuré. C'est rarissime. Moi, en 30 ans, je n'ai jamais vu un hypermnésique tel que les deux personnes que j'ai entendues. Ouais. C'est rarissime. C'est étudié. Et déjà, vous avez vu que vous avez deux formes. Vous avez la forme de Fabien qui apprend très bien, facilement, des listes interminables. Mmh. Et l'autre forme, qui est la dame dont j'ai pas retenu le nom, mais qui raconte, c'est insupportable parce qu'elle se rappelle tous les détails de son quotidien.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment très envahissant, très pénible, parce que dans la vie, pour faire des choix, pour décider, pour s'organiser, il faut parfois un petit peu oublier.
Ouais.
Et puis, il est possible que ça n'ait pas beaucoup... Enfin, il est certain que ça n'a aucun intérêt de se rappeler tous les menus de toute sa vie. Vous imaginez ce que ça peut représenter. Et ces personnes sont parfois obligées de développer des techniques d'oubli. C'est-à-dire que pour apprendre, on développe des mnémotechniques, comme Fabien, parce que Fabien très certainement utilise des techniques de mnémotechniques que l'on connaît bien. Mais l'autre personne qui dit que son quotidien est insupportable, il faudrait qu'elle mette au point des techniques de l'éthotechnie, c'est-à-dire d'oublier, d'apprendre à oublier.
Alors vous citez un cas justement dans votre livre, très bien connu de la littérature scientifique, c'est celui de ce russe Veniamine, qui était journaliste d'ailleurs à l'époque, et qui sidérait tout le monde dans sa rédaction parce qu'il ne prenait aucune note, mais il se souvenait d'absolument tout.
Exactement. Alors, ce qui avait surpris son rédacteur, c'est que comme il ne prenait aucune note, il a pensé que c'était une marque d'indifférence, quoi, qu'il s'intéressait pas à ce qu'on disait. Et puis il dit, mais non, mais je retiens tout.
Ouais.
Et il a été étudié par un neuropsychiatre russe qui s'appelle Luria, qui a énormément donc étudié ce cas, mais dont la vie a été assez triste, parce qu'il a pas fini comme journaliste, il a fini comme artiste de music hall, en montrant ce qu'il était capable d'apprendre, mais petit à petit, sa vie s'est désagrégée, et il a fini très triste et très malheureux, puisqu'il retenait tout, c'est-à-dire une liste de 400 mots qu'il avait apprise il y a 10 ans, il était encore capable de la dire, et puis de dire, bah oui, mais c'était tel jour, il y a le ciel était de telle couleur, le rideau de scène était de telle couleur, etc., ce qui n'a finalement aucun intérêt. Mais c'est là que l'on comprend que l'oubli nous aide un petit peu. Comme toujours, c'est un problème d'équilibre. Ouais. On veut avoir une très bonne mémoire, mais il ne faut pas qu'elle soit trop bonne. Ouais. On veut ne pas oublier, mais parfois c'est intéressant d'oublier.
Enfin là, l'exemple qu'on avait dans le reportage, c'est retenir l'annuaire, être capable de retenir tout un annuaire, c'est quand même absolument sidérant. Non, comment c'est possible ?
Alors d'abord, bien sûr, ça sert à rien, on est bien d'accord, mais c'est possible parce que les personnes travaillent beaucoup, sont des personnes qui souvent passent 10 heures par jour à apprendre, et puis elles développent des techniques. La technique la plus classique, c'est la technique des lieux, c'est-à-dire qu'elles apprennent une architecture avec un certain nombre de pièces, mettons une antichambre, un salon, une salle à manger, etc., vous voyez, qui s'enchaînent, et puis dans chaque pièce qui est bien individualisée dans leur esprit, elles déposent un des mots ou un des éléments de la liste à mémoriser, et elles feront un petit lien. Si par exemple c'est le mot lion, et que la première pièce est l'antichambre, elles vont s'imaginer, l'imagerie mentale va jouer un rôle important, que le lion rentre en rugissant dans l'antichambre, et puis après, si le mot c'est castor, elles vont imaginer le castor en train de ronger l'armoire qui est dans le salon. Et quand elles vont devoir redire la liste de mots, elles vont passer en revue, ah oui l'antichambre, le lion qui rugissait, ah oui le salon, et bien il y a le castor qui rongeait la commode ou l'armoire, etc.
Mais enfin, ça prend un temps fou, vous imaginez, pour un bottin ?
Écoutez, ça prend un temps fou, effectivement, quand c'est le bottin, mais quand vous faites des formations, vous avez des personnes qui arrivent très bien à démontrer ça, lors de formations sur la mémoire, elles apprennent cette technique à des personnes qui n'en ont jamais entendu parler, et elles leur montrent qu'après une heure d'explication, que finalement, ils peuvent leur faire apprendre une liste de 20 mots sans trop de problèmes. Donc ça marche bien, c'est utile pour apprendre des listes, ce qui n'est pas toujours nécessaire dans la vie. Votre vie n'est pas remplie de listes. Parfois, un moyen mnémotechnique différent sera plus aidant. Mais c'est vrai que quand vous devez apprendre le bottin, vous allez utiliser cette technique pour la première page, la deuxième page, la troisième page, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, il vous faudra une journée pour apprendre la première page, puis vous apprenez la page suivante, etc., et puis vous repassez. Donc, ce n'est pas une technique qui sera hyper facile, parce que c'est du travail, mais on peut y arriver.
Maryse nous dit sur franceinter.fr, un enfant qui baigne dans un climat anxiogène, stressant et qui a de ce fait un sommeil tout le temps perturbé, pourra-t-il récupérer des zones de mémoire une fois arrivé à l'âge adulte s'il trouve un environnement plus calme et plus serein ?
Alors d'abord, il ne faut pas penser que ces zones de mémoire sont abîmées. Mais il est clair que quelqu'un qui est très stressé aura des mécanismes de mémorisation un peu plus fragiles. En sortant d'une période de stress, on voit que effectivement la mémoire revient. Je pense que tout le monde a vécu des périodes de stress et des périodes de non-stress. Et on voit très bien qu'effectivement, il y a plus de facilité dans ces périodes hors du stress. Ce qui veut dire que le processus, il n'est pas détruit. En fait, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que ces situations de stress vont surtout perturber l'attention, la concentration, et c'est donc le processus premier de mémorisation qui a besoin d'être attentif et concentré, qui sera donc gêné, mais en soi le processus de mémorisation n'est pas perturbé, il est réutilisable normalement en dehors des périodes de stress.
Bernard Croisil, tout sur la mémoire, c'est chez Odile Jacob, vous restez avec nous, une dernière partie dans un instant, et d'autres questions des auditeurs pour vous sur franceinter.fr.
Used to know the way, I forgot it all. I used to be you.
IBI. I want to be like you.
La tête au carré.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis Monsieur Shelby de la chambre 304. Qui est-il pour votre service, Léonard?
Burt.
Burt. Vous aviez oublié?
C'est mon état qui veut ça.
C'est ma mémoire. Amnésie?
Non. C'est pas de l'amnésie. J'ai pas de mémoire à court terme. Je sais comment je m'appelle, qui je suis, mais je retiens plus rien suite à une blessure. Tout s'efface. Si cette conversation dure un peu trop, je saurai bientôt plus comment elle a commencé. Et quand on se reverra, j'aurai complètement oublié qu'on l'a eu. Et même, je saurai plus si je vous connais ou pas. Alors si je vous semble un peu bizarre, impoli, je vous l'ai déjà dit, peut-être c'est ça.
Oui, excusez-moi, c'est pas que je mette en doute, mais c'est quand même curieux. Vous me remettez pas du tout?
Non.
Mais ça fait un paquet de fois qu'on se parle.
Je m'en doutais, oui.
Et ça fait quel effet de...
Comme quand on se réveille. T'en émerges du sommeil.
Ça doit être gonflant. Je veux dire, c'est le monde à l'envers, quoi. Vous pouvez éventuellement savoir ce que vous allez faire, mais jamais ce que vous venez de faire. C'est exactement le contraire de moi.
Voilà, c'était extrait du film Memento, sorti en 2000 de Christopher Nolan, Bernard Croisil, pour parler donc de la mémoire à court terme. Alors, où se situe cette mémoire, justement, dans ce grand éventail de nos mémoires en général ?
Alors d'abord, le film Memento, c'est un film remarquable, extraordinaire, mais il commet une erreur là. Léonard, quand il dit qu'il n'est pas amnésique, mais qu'il n'a pas de mémoire à court terme, c'est tout l'inverse. Il a une très bonne mémoire à court terme, c'est-à-dire qu'il est capable de retenir pendant 2 minutes,
oui.
Et c'est le processus de long terme qui n'existe plus. Et c'est la raison, c'est tout l'histoire du film, et je vais pas trop déflorer le sujet, mais il est obligé de mettre des papiers, des crédits, ou de tatouer sur son corps des informations pour qu'elles restent en long terme. Parce que cette mémoire à court terme, c'est une capacité de concentration qui dure quelques secondes, jusqu'à 30 secondes, une minute, etc. Et après, il faut qu'on passe dans le processus de mémoire à long terme. Et si pendant votre processus de mémoire à court terme, ce qui était le cas de Léonard, si vous êtes dérangé, eh bien, soit l'information, vous l'oubliez, soit vous la mettez en long terme. Et comme Léonard ne peut pas la mettre en long terme, cette information disparaîtra. Et c'est la raison pour laquelle il est obligé de l'écrire. Et cette mémoire à court terme, pour répondre à votre question, elle est dans plusieurs régions du cerveau, dans les régions pariétales, dans les régions frontales. Elle est dans plusieurs régions parce que ça fait partie, en gros, des systèmes attentionnels, des ressources attentionnelles, mais avec une focalisation sur le matériel qui peut être apprendre des mots ou apprendre des dessins. Donc ça devient un petit peu technique. Mais en tout cas, c'est bien dans le cerveau et dans plusieurs régions.
Alors justement, il y a Michel qui demande, on connaît la façon matérielle de stocker de la mémoire informatique, mais personne ne répond à cette question. Qu'en est-il du stockage physique de la mémoire humaine? Alors pour aller un peu plus loin que ce que vous venez de nous décrire, là, Bernard Croisil.
Alors, on a donc des réseaux qui permettent d'apprendre des informations nouvelles. C'est ce qui a été abîmé chez Léonard. Le système d'apprentissage des informations ne lui permet... Alors, il sait effectivement son nom, son passé, mais depuis son accident, il ne peut plus apprendre d'informations nouvelles. Et ce système, on le connaît, bon, ça s'appelle le circuit de Papez, ça part des hippocampes, puisqu'on a 2 hippocampes dans le cerveau. Et ce système nous permet de créer de nouveaux souvenirs et de nouvelles informations. Mais dans notre cerveau, nous avons ensuite des lieux où nous gardons ces informations. C'est plutôt dans les régions postérieures du cerveau, nous gardons des informations, mais sous des formes très sensorielles, c'est-à-dire la couleur, la forme, l'odeur, l'élément douloureux, et puis l'élément chronologique, etc. Et quand nous voulons retrouver une information, nos régions temporales et frontales vont récupérer dans le cerveau postérieur tous ces petits éléments qui vont reconstruire le souvenir. En gros, si vous voulez, pour être simple, quand je raconte un souvenir, quand je me rappelle un souvenir, je ne vais pas chercher un livre, je vais reconstituer le livre. C'est-à-dire que je vais prendre tous ces petits éléments, toutes ces pages qui sont dispersées dans mon cerveau pour refaire le livre. Et comme c'est une reconstitution du livre à chaque fois, il est tout à fait possible que quand je raconte un souvenir le lundi et que je le raconte le mardi ou le mercredi, il y ait des petites différences parce que je ne vais pas forcément retrouver toutes les pages qui constituent le souvenir.
Donc ça veut dire que la mémoire, c'est pas une bibliothèque, hein, pour reprendre la métaphore du livre.
Ce n'est pas une bibliothèque où les livres souvenirs sont stockés. C'est un système où le bibliothécaire referait à chaque fois le livre, en reconstituant le livre, en récupérant toutes les pages. Ce qui explique l'inégalité et la sélectivité de la mémoire. Ce qui explique pourquoi, lorsque vous partez avec une personne, mettons, à Venise, le souvenir que vous en aurez 10 ans après ne sera pas tout à fait le même, parce que vous n'allez pas raconter les mêmes pages de votre souvenir.
Hélène...
Puis ça explique la manipulation de la mémoire aussi.
Hélène nous dit, est-ce que vous pourriez évoquer la mémoire traumatique et notamment ce processus d'effacement en surface de certains événements traumatiques qui peuvent ressurgir des décennies plus tard?
Alors là, c'est un petit peu compliqué parce que ça touche au domaine de la psychiatrie et avec les psychanalystes, on n'a pas toujours forcément les mêmes explications, les mêmes interrogations. Mais ce qui est certain, c'est que quand vous vivez un épisode traumatisant, parce que quand on dit traumatique, il faut faire attention, on a l'impression que c'est parce que vous avez un traumatisme crânien. Non, c'est un souvenir qui est psychologiquement traumatisant. Vous avez trois façons de réagir. Vous avez des personnes qui vont en garder le souvenir de manière correcte. Vous avez des personnes qui vont oublier cet épisode traumatisant et des personnes qui, au contraire, vont avoir une espèce d'hypermnésie de cet épisode traumatisant. Et quand cet épisode est oublié, finalement, c'est parce que il y a eu des processus de stress, de sécrétion d'hormones qui ont bloqué le processus d'apprentissage. Mais parfois, il peut en rester quand même quelques traces, ce qui fait que quelques années plus tard, si on vous donne un indice, eh bien, le souvenir peut émerger. Alors, je vais vous donner un exemple pour comprendre cette notion d'indice. Si je vous demande à vous, Mathieu Vidard, que faisiez-vous et où étiez-vous le 31 août 1997
Je ne m'en souviens pas du tout, voyez-vous.
Mais maintenant, je vais vous dire, le 31 août 1997, c'est le jour où vous avez appris la mort de Lady Di.
Ah oui, c'est vrai, je me souviens où j'étais, absolument. Oui, oui.
Voilà, vous voyez que je vous ai donné un indice supplémentaire sur la question de
bien
la date.
Joué.
Bah oui, bon, voilà. Merci.
Ça fonctionne. Allez, d'autres questions. Élise nous dit ceci. Est-ce qu'on pourrait parler de la mémoire du corps, par exemple, dans un enchaînement de danse? Comment ça fonctionne, là aussi? Ou est-ce qu'il s'agit toujours de l'esprit? Ou est-ce que le corps peut aussi emmagasiner des informations comme ça, qui sont de l'ordre de la mémoire?
Alors, la mémoire du corps n'est pas dans le corps, bien évidemment. Ce que beaucoup de personnes appellent la mémoire du corps, nous allons l'appeler la mémoire procédurale, c'est-à-dire que votre cerveau, différentes régions du cerveau, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a différentes régions du cerveau qui vont vous permettre de mémoriser un geste que vous allez répéter plusieurs fois. Donc, bien évidemment, c'est la mémoire des choses faites par le corps, mais cette mémoire n'est pas stockée dans le corps, elle est stockée dans le cerveau. Et l'intérêt de cette mémoire procédurale, c'est que elle est sensible à l'apprentissage, c'est-à-dire que vous apprenez à marcher, vous apprenez à jouer au tennis, vous apprenez le vélo, etc. Donc, et apprendre, ça veut dire que vous êtes au début, c'est un petit peu difficile, mais plus vous réalisez ce geste, et plus il est ancré dans votre cerveau, et il acquiert une robustesse extraordinaire. C'est-à-dire qu'à 90 ans, vous n'avez pas perdu les gestes de la natation ou du vélo. Si vous êtes gêné, c'est plus par votre arthrose ou par votre prothèse de genou. Mais cette mémoire du corps, qui est en fait une mémoire procédurale, elle est extrêmement robuste parce que les systèmes cérébraux qui vont retenir cet enchaînement de gestes, ces systèmes sont extrêmement robustes et peu sensibles aux effets du vieillissement.
Ouais, on a le témoignage de Rémi, il nous écrit d'ailleurs, c'est le témoignage d'un fœtus. Vous avez parlé dans votre introduction de la mémoire du fœtus. Mon père, écrit Rémi, jouait de la clarinette 3 heures par jour quand ma mère était enceinte de mon frère. Elle apprenait le saxo quand elle était enceinte de moi. Mon frère et moi avons tout entendu et cela explique peut-être notre passion à mon frère et à moi pour ces instruments. La mémoire du fœtus a dû nous donner le virus, nous dit Rémi. Vous êtes d'accord, Bernard Croisil?
C'est possible, c'est possible. Mais ça aurait pu avoir l'effet inverse, c'est qu'au contraire, il soit dégoûté à vie du saxophone ou de la clarinette.
On trouve ça. Alors, vous le disiez tout à l'heure, on peut faire donc des expériences scientifiques en observant la façon dont réagit le bébé à la succion, c'est ça? Pour savoir si justement, quand il était fœtus, il entendait des informations particulières.
Oui, c'est-à-dire que si vous faites entendre une mélodie ou si la mère, par exemple, mange beaucoup d'anis en fin de grossesse et que vous confrontez le nourrisson à plusieurs odeurs ou plusieurs goûts alimentaires, il va avoir une réaction pour le goût de l'anis, par exemple. Mais bien évidemment, quand vous avez un jour, vous ne pouvez pas parler. Alors comment est-ce qu'on sait? Eh bien, en fait, on s'est rendu compte que lorsque il va être confronté à l'odeur de l'anis, il va avoir un mécanisme de succion des lèvres beaucoup plus important et plus rapide que pour les autres odeurs où il y aura un mouvement du regard qui sera plus intense. Donc on a, comme ceci, la possibilité, en regardant les réactions du visage du gamin, enfin du nourrisson, de voir qu'il a un sentiment de familiarité vis-à-vis des odeurs qu'on lui présente ou vis-à-vis des musiques qu'on lui présente. Ça ne veut pas dire que 10 ans plus tard, il sera capable de se rappeler qu'on lui a présenté différentes odeurs ou différentes musiques, bien évidemment.
Michel nous dit, ma fille, jeune schizophrène de 25 ans, constate une forte baisse de mémoire consécutive à la prise de son médicament contre les hallucinations. Est-ce qu'elle peut espérer recouvrer la totalité de sa mémoire d'avant la maladie?
Alors, quand vous êtes schizophrène, vous avez à la fois, pour ce qui est de la mémoire et de la concentration, les conséquences des médicaments qu'on est bien obligé de vous donner, bien sûr, mais il y a aussi les conséquences de la maladie schizophrénique, c'est-à-dire qu'on sait qu'en dehors des périodes, mettons, d'hallucination, les personnes qui sont schizophrènes gardent souvent une petite fragilité au niveau de certaines fonctions cognitives, et en particulier la concentration, et une petite lenteur au niveau du raisonnement, donc ce qui est lié à leur maladie schizophrénique. Et maintenant, on développe de la remédiation cognitive pour aider ces personnes schizophrènes ayant une schizophrénie, à avoir une meilleure cognition.
Ouais, et ça fonctionne comment, en deux mots, Bernard Croisil?
Bon, on leur fait faire des petits exercices, souvent informatiques, enfin numériques, digitaux, où on leur fait travailler donc la concentration, le raisonnement, la rapidité, la mémorisation, etc. Et on arrive petit à petit à renforcer ces systèmes qui sont un peu fragilisés par la maladie.
Voilà, donc on n'a pas fini de parler de la mémoire, hein, parce qu'il y a toujours des recherches en cours et de nombreuses publications régulièrement sur le sujet. Et puis en attendant, on peut lire ce livre de référence que vous avez écrit donc il y a quelques années, mais qui est toujours disponible, et qui s'appelle « Tous sur la mémoire ». Vous en êtes l'auteur, Bernard Croisil, et il est publié chez Odile Jacob. Merci à vous et merci aux équipes de Lyon qui nous ont permis d'assurer ce duplex en direct des bureaux de Radio France. Merci Bernard Croisil, à bientôt.
Merci Mathieu.
Et c'est terminé pour cette Tête au Carré. Merci à Guillaume Roux et Raphaël Rousseau qui étaient aujourd'hui à la technique. Dans un instant, ce sera Fabrice Drouel avec l'affaire des paillotes, un incendie d'État. Et ce sera juste après les infos puisqu'il est 15h.